rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Au sommaire de cette nouvelle édition, deux grands rendez-vous. D'abord, un entretien avec Jean-Marie Freys, qui est le responsable du Festival itinérant des musiques du monde, Festival Convivencia. Un entretien mené par Elisabeth Sestor. Et puis, à la fois de la littérature et du débat d'idées, avec une longue soirée en compagnie de l'écrivain Dominique Hédé, qui s'est passée à Aix-en-Provence, aux Écritures croisées, et dont nous allons diffuser de larges extraits. Pour commencer, Jean-Marie Freys en compagnie et en dialogue avec Elisabeth Sestor.
Au rendez-vous de midi, bonjour, bienvenue dans cette partie musicale. Et aujourd'hui, nous avons invité un directeur de festival qui est plutôt original, puisqu'il y a une double originalité, le festival Convivencia, basé près de Toulouse, mais c'est un festival itinérant. Donc nous avons son directeur artistique au téléphone, Jean-Marie Freys, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le directeur de ce festival, vous allez nous expliquer un peu pourquoi il est si original.
Oui. Eh ben oui, c'est un festival qui est né il y a déjà un peu plus de 10 ans, puisqu'on prépare la 12e édition. Et c'est un festival qui est né à partir d'une aventure qui nous a amené à quelques-uns à acheter une péniche marchande qui naviguait, qui travaillait sur le canal du Midi, et à la transformer et à en faire d'abord une salle de concert ici près de Toulouse, à Ramonville. Une petite salle de concert qui a ouvert en 1995, où on peut recevoir 75-80 spectateurs. Et puis ensuite, tout naturellement, est venue l'idée de créer un événement qui soit à l'échelle du canal du Midi, entre Atlantique et Méditerranée, et de faire vivre un projet, d'amener la péniche à être le support d'un projet qui prolonge bien la fonction, en fait, traditionnelle des bateaux sur le canal, sauf qu'au lieu de transporter des marchandises, eh ben, notre marchandise, c'est plutôt du rêve, de la musique, des artistes et puis une rencontre forte avec le public.
Voilà, parce que donc ce festival est un festival itinérant, qui une itinérance particulière puisque c'est tout le long du canal de Midi, ce canal qui a été créé au XVIIe siècle et qui rejoint en fait la Garonne à la Méditerranée.
Ouais, c'est ça, la Garonne à la Méditerranée, et puis nous on va également sur le canal latéral à la Garonne jusqu'à Bordeaux. Et donc le principe du festival, c'est qu'on monte une scène sur le pont de la péniche, une scène de 10 mètres par 4, donc c'est déjà un bon espace scénique que l'on équipe avec du son, de la lumière, et on amène d'étape en étape, environ un peu moins d'une vingtaine chaque année, on amène tout ce matériel avec une équipe technique et puis également avec une équipe de bénévoles, enfin des gens qui font vivre un peu ce projet.
Et une trentaine de bénévoles, je crois, hein, qui participent.
Une trentaine de bénévoles, une dizaine de professionnels en comptant les permanents et puis les techniciens occasionnels, intermittents. Et donc voilà, on amène donc tout ça de port en port, d'écluse en écluse. Et donc le principe d'une étape du festival, c'est qu'on amarre le bateau et qu'on prépare le concert du soir. Et c'est un festival gratuit, donc les gens viennent et se rassemblent devant le bateau. Et donc là, il y a à boire, à manger, il y a des stands, enfin il y a une ambiance qui permet de se rencontrer, de passer un moment agréable et voilà. Et donc une des originalités de ce festival, c'est qu'effectivement, d'un soir sur l'autre, le spectacle n'a pas lieu au même endroit et qu'on peut ainsi suivre le festival comme ça et le rejoindre à chaque étape quand on a le temps.
Oui, c'est une grosse organisation qui doit se mettre en route.
Oui.
C'est pas comme un festival.
C'est une organisation permanente, effectivement. Oui.
Et donc chaque année, vous changez les étapes.
On a une, disons, on a une structure assez, assez permanente. Enfin, on fait à peu près toujours le même parcours. Les étapes changent parce qu'on essaye aussi de travailler chaque année avec de nouvelles communes, mais on a aussi des interlocuteurs, des communes fidèles, hein, des amis aussi, enfin des gens qui nous attendent. Et voilà, c'est quand même un rendez-vous maintenant assez assez régulier, assez installé, et on accueille chaque année environ 15 à 18 000 personnes en tout.
Ah oui, c'est un public qui vous suit d'étape en étape ou bien...
Et puis c'est aussi un festival qui va à la rencontre du public, hein, donc les gens viennent nous voir quand on passe chez eux, dans leur commune, dans leur village, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il y a un brassage entre les populations, et puis il y a aussi un brassage au niveau des publics, parce que la programmation musicale qu'on propose, elle est vraiment très ouverte, elle est faite pour être partagée par toutes les générations, je crois.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce festival est un festival de musique du monde, qui a d'ailleurs débuté, je crois, surtout avec des groupes du côté de Toulouse, puisque vous êtes basé à Toulouse.
Oui, bien sûr, on a démarré avec des groupes locaux au début, et puis on a démarré aussi avec l'idée de la confrontation entre les identités culturelles, entre les traditions musicales, et on a axé aussi beaucoup la programmation sur la fête, sur la musique à danser notamment. Et petit à petit, effectivement, on a invité des artistes venus d'un petit peu partout, hein, de tous les pays, de tous les continents même. Et donc voilà, on a maintenant un festival qui est bien identifié comme un croisement, une passerelle sur laquelle se croisent vraiment toutes sortes d'esthétiques et de traditions musicales du monde entier, quoi.
D'accord. Donc vous avez donc le monde entier, mais aussi donc ces groupes de toute la région DOC.
Oui.
L'année dernière, par exemple, vous êtes parti de La Mal Coiffée, qui est un sextet de 6 femmes, hein, c'est ça. Donc
oui, c'est un sextet vocal, une polyphonie en occitan, oui.
Mmh. Jusqu'au groupe le Geisaber qui est dans le Piémont italien où on parle aussi l'occitan.
Effectivement.
Et en passant par l'orchestre arabe de Barcelone ou d'Abitouré, Dupin qu'on connaît bien ici à Marseille.
Mmh. Donc musiciens du Nil, pas mal de musiciens africains l'an dernier avec notamment le Super Rai Band de Bamako qui est un orchestre mythique de rock mandingue. Voilà, c'est effectivement ça le festival, c'est-à-dire que on essaie de mettre un petit peu en valeur les musiques du monde sans oublier bien sûr les l'identité d'ici, hein, l'identité occitane et les très bons artistes occitans, les très bonnes initiatives artistiques telles que La Mal Coiffée dont vous parliez ne peuvent pas être absentes de la programmation, comme Moussuté également qu'on a reçu, que vous connaissez bien chez vous et qu'on a reçu également il y a 2 ans ou 3
oui,
ans.
Oui, il était dans cette émission il y a 2-3 mois aussi.
Et voilà, donc c'est ce grand brassage dont je parlais tout à l'heure. Et c'est aussi, ce qui est très important pour nous, c'est que on s'adresse souvent à un public qui n'a pas l'habitude d'aller dans des concerts, de payer sa place, ou qui n'a pas l'habitude de regarder, peut-être de fouiner un petit peu en détail dans ce qui n'émerge pas comme ça dans les musiques, dans les médias, au niveau de la musique. Et donc on amène là, je crois, pour le public, la possibilité de faire vraiment des découvertes et de voir que voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas qu'une seule forme d'expression musicale, il y en a plusieurs, et elles sont très riches, elles sont très créatives, et il y a beaucoup d'expressions vraiment très, très pluriel, quoi. C'est vraiment un festival sur le thème de la pluralité des cultures et des musiques.
D'accord. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez appelé Festival Convivencia ?
Alors, on l'a appelé Convivencia parce que Convivencia, c'est un vieux mot du vocabulaire, c'est un mot très ancien du vocabulaire des troubadours. Et la convivencia, ça veut dire vivre ensemble, hein, en occitan et dans bien d'autres langues latines. Et c'était la façon pour nous de faire référence à des valeurs philosophiques, à des valeurs humaines. Hein, et puis en même temps, vivre ensemble, c'est un peu ce qui se passe quand il y a une étape du festival, c'est-à-dire que il y a vraiment un mélange. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un public là qui n'est pas forcément un public convenu, c'est-à-dire le public qui connaît déjà, qui est informé, qui est au courant un peu de toutes les tendances de la musique et tout ça. Non, il y a un public qui vient parce que le festival passe chez lui et il va voir, il va découvrir, il va rencontrer en même temps son voisin. Voilà, c'est ça l'idée du festival.
Très bien, donc cette année vous irez jusqu'à Arles. Les dates, oui. C'est du 28 juin au 10 août. Pour avoir plus d'informations, connaître un peu la programmation qui va d'ailleurs bientôt arriver, je pense.
Oui.
On va donner l'adresse d'un site internet.
Alors c'est l'adresse du site, c'est www.festivalconvivencia.net, festivalconvivencia.net, sinon il faut taper, on tape convivencia, on arrive sur Google et on arrive directement sur notre site.
Parfait, donc vous retrouverez aussi sur le site de La Pensée de Midi et de celui de Radio Grenouille, toutes les coordonnées, les contacts. Jean-Marie Freys, merci.
Merci à vous.
Pour se quitter, nous allons écouter un morceau de La Mal Coiffée, donc ce groupe de Toulouse, six jeunes femmes qui chantent en occitan et qui étaient l'année dernière au festival Convivencia.
deuxième temps fort de ce rendez-vous de midi avec Dominique Aidé, à l'occasion d'une soirée magnifique des écritures croisées à Aix-en-Provence conçue par Annie Terrier, des lectures de la comédienne Anne Alvaro et des paroles souveraines, magistrales de Dominique Aidé qui nous font voyager dans l'univers des mots et de la littérature. On l'écoute.
Le titre de cette soirée, c'est « Pourquoi il fait si sombre ?» C'est le titre donc du second roman de Dominique Aidé, autour de laquelle nous nous retrouvons ce soir. Hier, on était dans l'œuvre de Jean Genet, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit rappel, puisque Dominique Aidé a consacré à Genet un essai qui s'appelle « Le crime de Jean Genet ». Ce soir, on part ailleurs, on va faire un parcours dans ses romans, entre la France et le Liban, en compagnie de Gérard Coury et bien sûr d'Anne Alvaro, qui nous lira en deux parties des pages extraites de « Pourquoi il fait si sombre ». Alors, je voudrais juste demander à Dominique, qu'est-ce que c'est que ce titre complètement à l'envers, là, « Pourquoi il fait si sombre ?»
Vous voulez dire « Pourquoi ce n'est pas « Pourquoi fait-il si sombre ?»
Voilà.
Oui, c'est une petite erreur de français que je voulais, parce que chez nous, quand on parle, on dit ça comme ça. On dit « Pourquoi il fait si sombre ?» On ne dit pas « Pourquoi fait-il si sombre ?» Et à vrai dire, j'ai commencé avec ce livre à donner quelques petits coups de griffe à la langue française, qui est une langue que j'aime énormément, à laquelle je me suis attachée, après lui en avoir un peu voulu, de m'avoir tout de même partiellement privée de la langue arabe, qui est tout de même la mienne fondamentalement. Je lui en ai un peu voulu à cette langue que je maîtrisais bien mieux que l'arabe, que je ne pouvais pas écrire, et dont j'ai un peu porté le deuil tout en l'arabe, le portant quand même en le transposant, en le transportant vers la langue française. Il ne s'agissait pas de le traduire parce que c'est intraduisible, un dialogue en arabe. Quand on dit bonjour, qu'on dit sabah al-khair, s'il fallait traduire que ton matin soit heureux, on serait tout de suite dans un texte illisible. Donc, le deuil de la langue arabe a été constant et j'ai fini, je crois, par le porter avec une certaine joie. C'est-à-dire, c'est au fond comme quand quelqu'un vous manque et qu'il finit quand même par vous habiter. Et donc, la langue arabe est là, mais je n'ai pas voulu faire un travail qui aurait consisté, comme on dit, à écrire l'arabe en français. Je n'y crois pas. Je crois que la langue française a un certain nombre de règles auxquelles je tiens parce qu'elles me permettent de mieux dérailler ensuite. Donc, ce mélange a fini par me convenir. Mais de temps en temps, oui, je tiens à ce que les personnages puissent, parlant français, avec ce monde-là derrière eux, le faire avec leur ton, leur voix. Voilà.
Un. Je me suis assise sur un chapeau de paille. Deux. Je suis le chapeau de paille sur lequel je me suis assise. Trois. Un homme s'est retourné pour me dire « La vie est belle, vous ne trouvez pas ?» Quatre. Mon âme est allée dire à mon corps du bien de moi. Je les attends, ils ne devraient plus tarder. 5. J'avais mis la mort sur le toit. Qui est-ce qui me l'a mise à la fenêtre? 6. Je voudrais tant écrire le français d'une manière qui me soit étrangère. 7. Quand je pense au monde, je n'ose pas y être. Et quand j'y suis, je n'ose pas y penser. 8. Littérature. Tu fais de la littérature. J'ai horreur de la littérature. 9. J'ai lancé le cochonnet il y a plus de 30 ans et j'ai toujours la boule de pétanque dans l'autre main. 10. Et si je me mets en avant, qui remplira le vide derrière moi? Moi. Qui? Toi? Toi? Moi? Oui, moi. Waouh. 11. Regarde, il va bientôt neiger. Tu sais bien que c'est faux. Et si ça me plaît de l'écrire? 12. Je suis un ours de cirque avec deux pattes au sol et deux pattes en l'air. 13. Tombés dans les oubliettes, ils sont tombés dans les oubliettes, les toits de tuiles qui coiffaient de rouge les beaux visages de pierre tournés vers la vallée. 14, sois plus précise. Une fourmi grimpe sur la tige d'une rose, s'arrête au pied d'une épine et se demande affolée si ce chemin vaut le détour. Moins poétique. Trois grosses mouches s'agitent autour de la rose et j'ai bien peur que la fourmi ne meure avant elle. 15. Ah, ce grand cri que je suis seule à entendre et qui ne s'écrit pas. 16, 17, 18, ça suffit. À 20, je m'arrête. 21, tais-toi si tu veux, moi j'ai envie d'écrire un livre. 22, tu écris ? Non, je parle toute seule. 40, 41, 42, 43 ans, mon âge avance au rythme d'une pendule détraquée. Un mot, un arbre. Je plante un arbre, je grimpe dessus, je m'assieds sur une branche à côté d'un oiseau qui tremble et qui frémit sans savoir qui nous sommes. Le pays n'a plus d'âme. C'est un bouge. Même pas un bouge. Il n'y a qu'à voir. Et depuis quand les pays ont une âme? C'est tout faux comme je pense, mais c'est tout vrai comme je sens. Si l'oiseau pensait, il penserait faux lui aussi. C'est tout bête de penser.
Mais sur le point de me dire quelque chose. Peut-être que la musique, peut-être que ma douleur. Oh mon Dieu, peut-être qu'on va pouvoir enfin parler. Quelle est longue la nuit des retrouvailles. Qu'il est dur le chemin qui mène aux larmes. La mer et moi, nous dormons sur le ventre. J'ai ôté ma robe noire. Je l'embrasse tendrement. Mon corps et le ciel se préparent à pleurer. Ils roulent et se balancent au rythme des vagues. J'en caresse une pendant que je vous parle. Elle grimpe sur mes épaules et me crache dans les yeux. Oh ma langue, oh mes lèvres, oh la douceur de l'air qui sèche sur mon visage. Avec la mer tourne et se retourne. Je vois dans les nuages le double de mes seins. Mes jambes et mes bras ouvrent grand la cage où se mouraient mes ailes. Qu'elles sont légères, qu'elles sont douces, qu'elle est faible la mort. Ta bouche crée le monde. Toi la terre et moi le gouffre. Comme ils vont bien ensemble, comme ils s'épousent, comme ils perdent la raison. Dis-moi je t'écoute, dis-moi où va le bateau. Où va la mer, où va le ciel. Est-ce le jour, est-ce la nuit. Dis-moi pourquoi il fait si sombre. La 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 la. La 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 la. La la la, la 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 la.
Une interprétation de Zeina Moukaïch, prélude à une nouvelle lecture par la comédienne Anne Alvaro.
Le soleil a frappé un bon coup sur la branche. L'oiseau s'est envolé. Je vais quitter ma phrase par où je suis entrée. Un, deux, les mains, les pieds agrippés à son tronc. Je descends de l'arbre, je descends, tout doucement, je descends. Et hop, je saute en criant « Mon genou !» Et pourquoi mon genou ? Il n'a rien mon genou. C'est fou comme j'aime l'odeur de mon enfance. Les yeux bleus de ma mère, le fouillis de la forêt, Beyrouth en contrebas et la mer derrière. Je ne sais pas où je vais. Il fait nuit à Paris. C'était beau tout à l'heure, la lumière des quais, moitié grise au ciel et moitié or aux fenêtres. Quelqu'un m'a dit « Votre pays va bien maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai allumé une cigarette en m'excusant poliment d'enfumer l'atmosphère. Pourquoi ma tête serait-elle donnée à tout le monde ? Pourquoi ma tête plus que mon cul ? J'ai appris à me taire, il faut désormais que j'apprenne à me croire. N'est-ce pas, mon amour? C'est étrange de poursuivre une vie après l'avoir vue s'arrêter. Plus prête à finir qu'à recommencer. C'est pareil avec le Liban et c'est pareil avec mon livre. Les gens viennent et s'en vont, sans raison de partir et sans raison de rester. Je les trouve comme je les quitte, sur le bord d'un trottoir, tantôt dans un pays et tantôt dans l'autre, à peine le temps d'une cigarette. Quelqu'un me dit « De quoi parle ton livre ?» Et moi je dis « De quoi parle sa vie ?» Il n'y a pas de souvenir qui tienne. J'écris, deux points ouvrez les guillemets, et je crée un souvenir. J'efface, deux points ouvrez les guillemets, et je l'envoie à l'oubli. L'histoire d'un petit homme humilié et l'histoire d'une grande guerre, c'est la même histoire. Rien ne suffit pour changer le monde. Et il suffit d'un rien pour en changer. Il n'y a qu'à voir. Je mets de l'or dans le paysage. De l'ocre mélangé avec un peu de rouge. Je rajoute du bleu à son ciel et du vert à ses arbres. Il y a des pins parasols et des lauriers roses sur le bord du chemin. Une place à l'ombre, une fontaine au soleil et un ange qui pisse sous le nez d'un pigeon. Ça y est, je suis à Rome. Et il est 5 heures du soir. Un homme m'attend dans les jardins de la Villa Borghese. Je le reconnais de loin à son foulard rouge et à son chapeau noir. Ça fait beaucoup de couleurs pour un seul tableau. Je gomme le foulard et je garde le chapeau. Il remet son foulard et me prend par le bras en me disant que je me fais trop de soucis pour une si petite affaire. C'est vrai, j'étais sur le point d'oublier mon bonheur. Il me dit... J'ai vu 2 lunes en rêve et je me suis inquiétée de ne pas savoir laquelle était la fausse, laquelle était la vraie. Une voix de femme me sommait de choisir. J'ai adossé une grande échelle contre une petite maison au milieu de la mer. Il s'est arrêté de parler et de marcher comme pour mieux réfléchir et il a ajouté « J'avais peur et je n'avais pas peur, c'est difficile à expliquer. Je voulais... me rapprocher du ciel pour voir. Nous avons tous deux regardé le ciel à ce moment-là. Sa voix a poursuivi. J'étais sur le point de rejoindre le toit lorsque l'une des 2 lunes s'est mise à bouger et à descendre, lentement, très lentement, comme cette feuille qui est en train de tomber. La feuille n'avait pas encore atterri quand je lui demandais, et pour finir, laquelle était la vraie ? Il me répondit très doucement, « Je ne sais pas. Je me suis réveillée au moment où je me disais que c'était comme si la terre s'était envolée et que j'avais le privilège de la voir redescendre. Je me suis alors baissée pour ramasser la feuille et je l'ai entendue dire « À quel moment une feuille est-elle morte ? Est-ce au moment de quitter la branche ou est-ce au moment de toucher le sol ?» Nous avons ri en même temps et quand je me suis retournée, pour lui donner sa lune, je me suis aperçue que j'étais seule au milieu du jardin et que cela faisait plus de 3 ans qu'il était mort, le maestro. Dieu que la poésie est dangereuse, elle tourne si vite au sang ou à la guimauve. L'Orient croupit embourbé dans la beauté de sa langue. Bonjour est à peine dit que c'est déjà un poème. L'Orient est une marque de montre inscrite en grand sur le haut d'un immeuble qui n'existe plus. C'était le cinéma Rivoli qui tournait le dos à la mer. Et c'était, pas plus tard qu'hier, la place des canons en français et Sharet el-Bouj en arabe. Impossible d'en dire plus, l'arabe et le français se disputent la parole. Comment faire mon deuil du bruit qu'ils font ensemble ? Rachid, Sami, Mahmoud et Abu Roro se demandent en ce moment où trouver de l'argent pour vivre. C'est à moi de décider si Rachid a une fille ou s'il n'en a pas. Disons qu'elle est morte, mais qu'il lui parle comme si elle était là. Il est seul dans sa chambre, allongé sur son lit. Le frigidaire ambulant d'un côté et une caisse renversée en guise de table de l'autre. C'est troublant de voir comme sa chemise à carreaux pendu sur sa béquille, lui ressemble. Il regarde du côté de la fenêtre. Il en sort peu de lumière, mais quand même. Sa voix me ramène en arrière. C'est la même voix, exactement la même que celle de Alia, me disant « Regarde, regarde-moi sur la photo, quand j'avais 15 ans. » Sa chambre est la dernière à gauche en bout du couloir. Il ne fait pas encore nuit. Et la ville ne connaît pas encore la guerre. Disons que nous sommes au mois de juillet 1973. Le bordel est perché au troisième étage d'un vieil immeuble en pierre. Il s'appelle La Rose. Mais les gens sont habitués à dire « chez Abu Ali ». Alia est postée devant la porte miroir d'une vieille armoire en bois. Ses mains, plaquées sur ses hanches, glissent le long des cuisses. Ajuste le tissu, remonte à la taille, la prenne en étau entre le pouce et l'index, la serre, la relâche, la resserre, tâte et caresse le ventre qui respire et se détend. S'attarde sur le pli du milieu, le pince un peu pour voir, passe et repasse amoureusement dessus, écarte grand les doigts, la gratte un peu partout de leurs longs ongles rouges. S'attarde sur son sexe, qu'elle se met à creuser comme un chien fait son trou. Et puis soudain lasse de rencontrer le tissu à la place de la chair, se sépare et rapplique chacune d'un côté sur le haut des fesses qui se balancent. Sa robe noire semble lui plaire. Elle se retourne à moitié, lorgne son dos. L'un des bas a légèrement filé à l'endroit du talon. Tant pis, elle mettra tout à l'heure du vernis à ongles pour stopper le dégât. Elle recule d'un pas, lève la tête et prend son image de haut en fronçant les sourcils. Ça y est, la vie s'est mise en marche dans une chambre à coucher. La femme observe avec une pointe de pitié ses jambes endormies. Elle se penche et les réveille lentement en massant les genoux. Cette posture la repose. Elle la garde un instant en soupirant très fort. Ses seins bougent librement à l'intérieur d'un décolleté en pointe. Le moindre mouvement les berce et les relance. Lorsqu'elles se redressent, ils ont grandi, blotti, l'un contre l'autre, au creux du V. Elle les saisit à deux mains et les rapproche d'un geste autoritaire. Le temps presse. Une voix d'homme hurle son nom à deux ou trois reprises. Elle tend l'oreille, mais ne répond pas. Elle avance le pied droit qui tourne et pivote sur un talon aiguille. Le tourne et le rabat de manière à briser l'angle du genou. Le joli coin où prend naissance l'arc du mollet. Est-ce une varice ou la marque d'un bleu qu'elle scrute avec dédain? Sa question l'agace. Elle hausse les épaules, grogne un juron et retrouve, en détournant les yeux, le banal contact de ses deux pieds au sol. Elle n'a pas encore eu un seul regard pour son visage. Son visage, elle s'en approche d'aussi près que possible. Elle ne le voit pas. Elle le scrute avec l'œil concentré de l'artiste qui retouche une œuvre achevée. Seul le détail l'intéresse. Un poil dérange la ligne du sourcil, elle l'arrache d'un coup sec. Repasse en dessous un peu de poudre blanche. Pose un doigt sur une paupière, l'étire et la bride en la maintenant fermée. La recouvre d'une dernière couche de mauve qui tranche cruellement avec le marron clair, presque miel, de ses yeux. Change de paupière et récidive avec la même gravité et la même indifférence. Ses longs cheveux clairs s'agitent autour d'elle. Il y a dans la rue un bruit de cris et de bagarres qui la laisse indifférente. À quoi pense-t-elle? Je ne sais pas. Sa grande bouche fraîchement repeinte se frotte les lèvres pour unifier le rouge. Il y a de l'exaspération et même de la rage dans ce mouvement répété de la mâchoire qui semble dire « ça suffit comme ça ». Ce n'est pas le livre que j'écris, c'est le livre que je n'écris pas qui me tient compagnie. Cette phrase m'est venue en rêve dans la nuit d'hier. Écrire droit m'ennuie. Je veux le marre du silence. L'illusion absolue. L'air qui circule entre les mensonges. Quelque chose d'indolore qui me ressemble un peu. Une bête à quatre pattes qui, pour avancer, envoie paître la terre. Je suis un air qui s'enflamme au son de la vie. Une moitié en feu et une moitié qui s'enfuit en courant. Impossible de rester, impossible de partir. Si je m'aimais un peu, rien qu'un peu, moi et moi, joue contre joue, tu imagines ? Ni avant, ni après, mais là, maintenant, comme par miracle, rien qu'un visage en larmes occupé à vivre pendant que le temps passe. La terre est si petite, c'est ma tête, je la tiens à deux mains, et je me demande pourquoi nous tournons dans le vide. Pourquoi j'écris un livre ? Pourquoi c'est si dur de grimper dans une vie sans renverser la barque ? Pourquoi ma peur ? Pourquoi cette peste à deux doigts de l'amour ? Pourquoi un mot plutôt que l'autre ? Il est midi moins le quart, virgule. 5 minutes sont passées. Bientôt 15. Quelqu'un a failli naître, on ne saura jamais qui c'était. Mon pays est le plus petit, le plus cassé, le plus pourri et le moins pays de tous les pays du monde. Chut, c'est la vie. Midi 5. Midi 6. Midi 7. Une libellule se pose sur une feuille de rosier en battant des ailes. Où ça ? À Beyrouth. Quoi d'autre ? Rien d'autre. J'ai inventé le rosier pour remplacer la minute et le pays qui viennent de passer.
Écoutez, vous me posez la question de, au fond, comment ça a commencé. La question, c'est que je ne me suis pas autorisée pendant longtemps. J'écris depuis très longtemps, mais j'ai beaucoup, éliminé des choses que j'avais pu écrire. La guerre a créé, je l'avais évoqué un petit peu hier, une immense culpabilité. Parce que j'étais très engagée politiquement très tôt, au Liban, en rupture de banc, au fond, avec le milieu social d'où je viens, qui est un milieu bourgeois, aisé, privilégié. Et je m'étais engagée, donc, politiquement, en travaillant dans les camps palestiniens, où j'enseignais le français, j'apportais ce que je pouvais, et où j'ai d'ailleurs bien, bien amélioré mon arabe, beaucoup plus que les Palestiniens n'ont amélioré leur français. Et donc, ça a été des années d'engagement très importantes, durant lesquelles je travaillais aussi, pour des raisons que je ne vais pas chercher à analyser avec vous ici, ça me mettrait trop à découvert, mais je travaillais aussi pour aider les prostituées qui voulaient changer de vie ou pour qui voulaient simplement laisser leurs enfants quelque part, pendant qu'elles pratiquaient leur métier. Donc, si vous voulez, j'étais vraiment très en rupture de banc par rapport à un milieu qui me projetait probablement dans quelque chose de plus conventionnel. Et la guerre est arrivée alors que nous étions dans cette espèce de d'idéalisme, il faut bien dire le mot, et de d'illusions formidables qui étaient qu'on pouvait vraiment faire quelque chose, qu'on pouvait changer les choses. Et la résistance palestinienne, dont Genet parle merveilleusement dans son livre, était dans un moment de grâce. Alors ça paraît paradoxal de parler de moment de grâce pour des gens qui vivaient par centaines de milliers dans des conditions désastreuses. Et pourtant, à l'époque, c'était... Et si on retourne dans les camps aujourd'hui et qu'on voit la différence, au même endroit, sous les mêmes toits, dans les mêmes murs, la différence entre ce qui s'est passé pour ces gens dans les années 70 et ce qu'il en est aujourd'hui est absolument énorme. Elle est dans les têtes, elle est dans la misère d'avoir attendu pour rien, mais vraiment pour rien, des décennies, plus de 30 ans. Donc, nous vivions au moment où nous pensions que les choses allaient tourner autrement, avec évidemment la mégalomanie de l'idéalisme et des 20 ans. Et quand la guerre a éclaté, les mêmes avec qui je travaillais, qui étaient des amis du camp, m'appelaient pour me dire « ne traverse pas parce que nos hommes descendent les gens sur papier d'identité ». Ils me protégeaient, j'avais des papiers d'identité par naissance maronite, qui étaient évidemment mal vus par ceux qui, voilà, enfin, c'était de tous les côtés une folie, une surenchère de violence. Donc, ça a été une sorte d'exil, évidemment, obligatoire par rapport aux engagements politiques. On ne pouvait plus se reconnaître en rien, en aucun parti, en aucune... vraiment en aucune des forces en présence. Donc ça a été une sorte de rupture brutale entre cette espèce de sentiment d'être ensemble dans une nouvelle marche de l'histoire et ce coup de frein brutal qui allait durer 15 ans. Et je dirais que écrire pendant ce temps-là, où j'étais alors en France, à Paris, me paraissait comme une seconde trahison. C'est-à-dire que c'était non seulement abandonner le pays, abandonner toute lutte politique, tout en continuant à penser que l'injustice valait toutes les énergies du monde, mais il y avait entre l'injustice et l'action un gouffre qui aujourd'hui a pris des proportions phénoménales et qui est en train d'ailleurs d'atteindre l'Europe. Ce sentiment d'impuissance qui a été le nôtre est un sentiment qui est en train de se répandre dangereusement ici aussi. Mais à l'époque où j'avais donc à la fois cette espèce de petit pays dans le feu, j'étais à nouveau privilégiée d'un côté, malchanceuse de l'autre. J'avais fait ces deux rencontres, celle dont on parlait hier avec Jean Genet, une autre qui était assez écrasante aussi, qui était Sioran et qui était un homme qui écrivait avec une économie, une exigence rare. La différence des générations était écrasante et au fond, c'était un surmoi de plus, c'est-à-dire que c'était encore un interdit. Comment écrire à 20 ou 23 ans, alors que la guerre était dans le pays, qu'on était pendu au téléphone et que j'étais flattée d'avoir l'attention de ces deux monstres qui étaient Sioran et Genet, prendre un papier, un crayon sérieusement et se dire que la phrase serait imprimée un jour me paraissait totalement improbable. Et puis... c'est un troisième monstre qui était peut-être le plus adorable des trois, dont Anne a lu le portrait, en un sens tout à l'heure, de l'homme au foulard et au grand chapeau dans les jardins de la Villa Borghese. C'était Fellini, que j'ai connu à Rome, quand j'ai été travailler à Rome, et qui m'a fait ce cadeau incroyable de me dire... mais vas-y, voilà, il m'a finalement donné comme un visa qui était que la guerre et le malheur ne voulaient pas dire qu'il me fallait nécessairement me priver de l'écriture. J'avais, je l'avoue, c'est pas très... aujourd'hui, ça me paraît une perte de temps incommensurable, mais il ne faut pas penser que c'était pour des raisons nécessairement de formidable maturation. Non, c'était pour des raisons beaucoup, beaucoup moins flatteuses. C'était que j'étais interdite. Interdite au double sens du terme. J'étais littéralement interdite. Et il y a eu ce maestro, cette merveilleuse rencontre de celui qui était lui vraiment dans la vie différemment de donc voilà, c'était trois hommes finalement pour moi qui allaient m'intéresser à l'Œdipe et au parricide 20 ans plus tard. J'avais de quoi faire avec ces trois figures et effectivement c'est en quittant Rome accompagnée par une amie qui est d'ailleurs ici venue me rejoindre à Aix, que le maestro m'a dit « Vas-y, écris ».
À partir de son rapport à l'écriture, Dominique Aidé s'interroge sur le travail de la langue.
Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire avec lequel nous travaillons tous et qui est un vocabulaire qui est en train de mourir pendant que nous l'utilisons? Nous sommes avec des mots morts. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'écoute les gens silencieux. Et c'est pour ça que très souvent, j'apprends plus en regardant des visages dans un métro qu'en lisant le journal.
Dominique Aidé s'interroge enfin sur le Liban et sur ce que ce pays a à nous apprendre.
Je me disais que le Liban ne plus pas grand-chose pour lui-même à l'heure qu'il est. C'est un pays qui est totalement manipulé, voilà, par les uns et les autres. Il ne peut pas grand-chose à l'heure qu'il est pour lui-même, mais je crois qu'il peut énormément pour le reste du monde. C'est-à-dire qu'une lecture attentive du Liban pourrait aider beaucoup les gens à penser. Et il est un cas de concentration de données contradictoires telles que, au fond, je vous le disais aussi, Valérie, si vous prenez un tout petit périmètre, vous prenez par exemple l'ascenseur de l'hôpital américain à Beyrouth. Il est grand, mais c'est quand même petit un ascenseur. Dans cet ascenseur, si vous montez 5 étages, vous aurez un microcosme du monde, c'est-à-dire que vous aurez une femme voilée des pieds à la tête dont seuls les yeux apparaissent, vous en verrez une autre qui a une jupe à les fesses, vous verrez un homme en costume qui vient d'Arabie Saoudite et qui fait partie de ceux qui permettent à l'économie de ce pays de survivre alors que normalement les gens devraient joncher les rues. C'est un pays qui marche parce que c'est une économie rentière et que l'argent rentre. Il y a donc ces gens-là. Il y a des gens normaux qui viennent soigner quelqu'un. Il y a de tout dans un ascenseur de l'hôpital américain. Eh bien, si vous montez les 5 étages, vous avez ce petit monde-là qui, à lui seul, est véritablement une miniature du monde. C'est-à-dire, comment faire pour que ces gens-là vivent ensemble? Comment faire pour qu'ils vivent ensemble? Alors, c'est sûr que le contraste est plus frappant quand on est dans un si petit périmètre, qu'il s'agisse du Liban ou de l'ascenseur, mais c'est le même qui est en train de se poser partout, y compris en France. C'est-à-dire qu'entre ces jeunes de banlieue et une réception à l'Élysée ou sans demander le moindre compte à Monsieur Pérez, qui quand même fait partie de ceux qui laissent mourir actuellement dans des conditions épouvantables les gens à Gaza, je veux dire, il y a là quelque chose qui peut être un détonateur à retardement, parce que ce sont des images qui vont se loger dans les têtes, que les têtes elles-mêmes sont des têtes un peu abîmées par la pauvreté mentale, par la misère de l'éducation, par l'envie d'une autre vie, et qu'il suffit de très peu de choses, on l'a vu au Liban, il suffit d'un rien, il suffit d'un titre dans le journal qui vous a choqué, il suffit d'une image, il suffit d'une poignée de main, d'une embrassade entre deux chefs de guerre qui ont fait des morts des deux côtés, pour que ça aille se loger dans les têtes, et que celui qui était un lanceur de pierres dans les années 80, en Palestine, c'est-à-dire la belle révolution de Pierre, se transforme en un petit monstre bardé d'explosifs et qui va aller se faire sauter à la sortie d'une école. Mais le drame, c'est que nous n'arrivons pas à penser. C'est ça le drame. Pourquoi ? C'est le même. C'est le père. Le fils, c'est le même. Qu'est-ce qui fait que ça va dégénérer dans les têtes à cette allure ? L'information a une responsabilité majeure dans cette affaire, les politiques bien entendu, et par exemple, j'ai pris cet exemple précis, peut-être parce que moi, il m'a interpellée. J'ai vu ces images d'une réception où il n'y a pas eu l'ombre d'une... On n'a même pas osé poser la question de savoir, mais est-ce qu'on n'était pas en droit de demander à Pérez tout de même, pourquoi encore des colonies ? Pourquoi toujours des colonies ? Qui nous expliquera qu'on fera un pays libre en le colonisant chaque jour après jour ? On n'avait pas le droit ici en France de poser la question. Quand cet autre gigolo monstrueux de Kadhafi est arrivé, tout le monde a fait une levée de bouclier. Tout le monde. Ces deux poids deux mesures risquent, dans un pays comme la France, par coûter très cher à la longue. Je vais vous dire, pour avoir fait l'expérience, tout comme mon père un jour dans le métro, qui s'est fait traiter de sale juif à l'aller et de sale arabe au retour, parce qu'il effectivement, il pouvait être l'un comme l'autre. Eh bien, moi, j'ai fait un peu la même expérience, c'est-à-dire de ceux qui trouvaient que j'étais beaucoup trop sensible à la question juive, c'est vrai, à laquelle je suis très sensible depuis toujours. Et au Liban, certains m'en ont voulu d'avoir pris des positions. De l'autre côté, ici en France, on m'en a souvent beaucoup voulu et pénalisé pour des positions défendant la situation des Palestiniens. Je ne veux même plus dire la cause, voilà déjà un mot qui est mort, il ne faut plus s'en servir. Il y a trop de mots qui ont servi et qu'il faut, il faut en inventer d'autres ou se taire. On ne peut plus travailler avec les mêmes mots. Mais ici en France, cette question, cette espèce de menace permanente d'être traité d'antisémite parce que nous réclamons une certaine vigilance et une certaine attention à un certain nombre de problèmes est une affaire très, très grave de conséquences. Parce que les conséquences sont invisibles. Elles se font dans les têtes et elles fabriquent des foutraques. Des gens qui n'ont pas les moyens ou la chance, comme moi ici aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer et d'avoir les mots pour le faire. Il y a ceux qui n'ont ni les moyens ni les mots et qui peuvent devenir dangereux. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas les moyens de répondre à ce chantage, de dire, eh bien, très bien, puisque nous n'avons pas le droit de parler, et puisque tout ce qui nous représente ici en France, c'est une ministre de la Justice qui se trouve être de confession musulmane et qui s'appelle Rachida, eh bien nous, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Un mannequin habillé par Dior, recevant Pérez à l'Élysée, ça ne nous suffit pas, nous, les musulmans de France. Eh bien, ces gens-là, il va falloir faire très attention pour ne pas se retrouver dans une situation qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Liban et qui n'est plus gérable, qui n'est plus négociable. Alors, que le Liban ne soit pas négociable, qu'il ne trouve pas d'issue, disons que c'est 10 400 km², mais est-ce que des pays et d'autres pays peuvent se payer ce luxe ? C'est une question que je pose avec, effectivement, vous le voyez, un peu de passion. Mais elle me mobilise, je n'avais pas envie de vous quitter sans vous avoir livré le fond de ma pensée.
Rendez-vous de midi pour cette édition du mois d'avril de Temps Fort avec un entretien avec Jean-Marie Freys, responsable du festival itinérant des musiques du monde, le festival Convivencia, et un long moment en présence de Dominique Aidé avec des lectures de la comédienne Anne Alvaro à l'occasion d'une soirée magistrale des écritures croisées le jeudi 27 mars au soir, des écritures croisées dirigées par Annie Terrier. Au rendez-vous de midi, musique, littérature, débat d'idées, toujours orienté vers le monde méditerranéen.